Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le livre que nous avons commencé lors de notre premier épisode se passe en Afrique et nous sommes plongés dans la vie d'une tribu de Haute-Guinée. Camara Laye est le fils du chef de la tribu. Dès le départ, dans un monde très particulier, Camara, l'enfant noir, a pour père le chef d'une communauté de tribus. Il a un atelier de forgeron dont il est le principal artisan, entouré de subalternes. Et nous avons commencé à le voir travailler pour fabriquer un bijou en or. Je vous propose de reprendre notre texte. Quand enfin l'or entrait en fusion, j'eusse crié, et peut-être eussions-nous tous crié, si l'interdit ne nous eût été défendu d'élever la voix. Je tressaillais, et tout sûrement tressaillais en regardant mon père remuer la pâte encore lourde, où le charbon de bois achevait de se consumer. La seconde fusion suivait rapidement. L'or, à présent, avait la fluidité de l'eau. Les génies n'avaient point boudé à l'opération. « Approchez la brique !» disait mon père, levant ainsi l'interdit qui nous avait jusque-là tenu silencieux. La brique qu'un apprenti posait près du foyer était creuse, généreusement graissée de beurre et de karité. Mon père retirait la marmite du foyer, l'inclinait doucement, et je regardais l'or couler dans la brique. Je le regardais couler comme un feu liquide. Ce n'était, au vrai, qu'un très mince trait de feu, mais si vif, si brillant. À mesure qu'il coulait dans la brique, le beurre grésillait, flambait, se transformait en une fumée lourde qui prenait à la gorge et piquait les yeux, nous laissant tous pareillement larmoyants et toussant. Il m'est arrivé de penser que tout ce travail de fusion, mon père l'eût aussi bien confié à l'un ou l'autre de ses aides. Ceux-ci ne manquaient pas d'expérience. 100 fois, ils avaient assisté à ces mêmes préparatifs et ils eussent certainement mené la fusion à bonne fin. Mais je l'ai dit, mon père remuait les lèvres. Ces paroles que nous n'entendions pas, ces paroles secrètes, ces incantations qu'il adressait à ce que nous devions, à ce que nous ne pouvions ni voir ni entendre, c'était là l'essentiel. La duration des génies du feu, du vent, de l'or et la conjuration des mauvais esprits. Cette science, mon père l'avait seul, et c'est pourquoi seul aussi, il conduisait tout. Tel est au surplus notre coutume, qui éloigne du travail de l'or toute intervention autre que celle du bijoutier même. Et certes, c'est parce que le bijoutier est seul à posséder le secret des incantations. Mais c'est aussi parce que le travail de l'or, en sus d'un ouvrage d'une grande habileté, est une affaire de confiance, de conscience, une tâche qu'on ne confie qu'après mûre réflexion et preuve faite. Enfin, je ne crois pas qu'aucun bijoutier admettrait de renoncer à un travail, je devrais dire un spectacle, où il déploie son savoir-faire avec un éclat que ses travaux de forgeron ou de mécanicien et même ses travaux de sculpteur ne revêtent jamais, bien que son savoir-faire ne soit pas inférieur dans ses travaux plus humbles, bien que les statues qu'il tire du bois à coups d'herminette ne soient pas d'humbles travaux. Maintenant qu'au creux de la brique l'or était refroidi, mon père le martelait et l'étirait. C'était l'instant où son travail de bijoutier commençait réellement. Et j'avais découvert qu'avant de l'entamer, il ne manquait jamais de caresser discrètement le petit serpent lové sous sa peau de mouton. On ne pouvait douter que ce fût sa façon de prendre appui pour ce qui demeurait à faire et qui était le plus difficile. Mais n'était-il pas extraordinaire ? N'était-il pas miraculeux qu'en la circonstance, le petit serpent noir fût toujours lové sous la peau de mouton? Il n'était pas toujours présent. Il ne faisait pas chaque jour visite à mon père. Mais il était présent chaque fois que s'opérait ce travail de l'or. Pour moi, sa présence ne me surprenait pas. Depuis que mon père un soir m'avait parlé du génie de sa race, je ne m'étonnais plus. Il allait de soi que le serpent fût là. Il était averti de l'avenir. Il en avertissait mon père. Cela me paraissait évident. Ne l'avertissait-il pas du tout? Mais j'avais ce motif supplémentaire pour le croire absolument. L'artisan qui travaille l'or doit se purifier au préalable, se laver complètement, par conséquent, et bien entendu, s'abstenir tout le temps de son travail de rapport sexuel. Respectueux des rites comme il l'était, mon père ne pouvait manquer de se conformer à la règle. Or, je ne le voyais point se retirer dans sa case. Je le voyais s'atteler à la besogne sans préparation apparente. Dès lors, il sautait aux yeux que, prévenu en rêve par son génie noir de la tâche qu'il attendait dans la journée, mon père s'y était préparé au saut du lit et était entré dans l'atelier en état de propreté, le corps enduit de surcroît des substances magiques scellées dans ses nombreuses marmites de gris-gris. Je crois, au reste, que mon père n'entrait jamais dans son atelier qu'en état de pureté rituelle. Et ce n'est point que je cherche à le faire meilleur qu'il n'est. Il est assurément homme et partage assurément les faiblesses de l'homme, mais toujours je l'ai vu intransigeant dans son respect des rites. La commère à laquelle le bijou était destiné et qui, à plusieurs reprises déjà, était venue voir où le travail en était, cette fois, revenant pour de bon, ne voulant rien perdre de ce spectacle, merveilleux pour elle, merveilleux aussi pour nous, où le fil que mon père finissait d'étirer se murait en bijoux. Elle était là, à présent, qui dévorait des yeux le fragile fil d'or, le suivait dans sa spirale tranquille et infaillible autour de la petite plaque qui lui sert de support. Mon père l'observait du coin de l'œil et je voyais par intervalle un sourire courir sur ses lèvres. L'attente avide de la commère le réjouissait. « Tu trembles ? » disait-il. « Est-ce que je tremble ? » disait-elle. Et nous rions de sa mine, car elle tremblait. Elle tremblait de convoitise devant l'enroulement en pyramide où mon père insérait entre les méandres de minuscules graines d'or. Quand enfin il terminait l'œuvre en sommant le tout d'un grain plus gros, la femme bondissait sur ses pieds. Non, personne alors, tandis que mon père faisait lentement virer le bijou entre ses doigts pour en étaler la régularité, personne n'aurait pu témoigner plus ample ravissement que la commère, même pas le griot dont c'était le métier, et qui, durant toute la métamorphose, n'avait cessé d'accélérer son débit, précipitant le rythme, précipitant les louanges et les flatteries à mesure que le bijou prenait forme, portant au nu le talent de mon père. Au vrai, le griot participait curieusement, mais j'allais dire directement, effectivement, au travail. Lui aussi s'enivrait du bonheur de créer. Il clamait sa joie, il pinçait sa harpe en homme inspiré, il s'échauffait comme s'il eût été l'artisan même, mon père même, comme si le bijou fût né de ses propres mains. Il n'était plus le turiféraire à gages, il n'était plus cet homme dont chacun et quiconque peut louer les services. Il était un homme qui créait son champ sous l'empire d'une nécessité tout intérieure. Et quand mon père, après avoir soudé le gros grain qui achevait la pyramide, faisait admirer son œuvre, le griot n'aurait pu se retenir plus longtemps d'énoncer la douga, ce grand chant qui n'est chanté que pour les hommes de renom, qui n'est dansé que par ces hommes. Mais c'est un chant redoutable que la douga, un chant qui provoque, un chant que le griot ne se hasarderait pas à chanter, que l'homme pour qui on le chante ne se hasarderait pas non plus à danser sans précaution. Mon père, averti en rêve, avait pu prendre ses précautions dès l'aube. Le griot, lui, les avait obligatoirement prises dans le moment où il avait conclu marcher avec la femme. Comme mon père, il s'était alors enduit le corps de gris-gris et s'était rendu invulnérable au mauvais génie que la douga ne pouvait manquer de déclencher, invulnérable encore, à ses confrères même qui, jaloux peut-être, n'attendaient que ce chant, l'exaltation, la perte de contrôle qu'entraîne ce chant pour lancer leur sort. À l'énoncé de la douga, mon père se levait, poussait un cri, où, par parts égales, le triomphe et la joie se mêlaient, et brandissant de la main droite son marteau, insigne de sa profession, et de la gauche une corne de mouton emplie de substances magiques, il dansait la glorieuse danse. Il n'avait pas plutôt terminé qu'ouvriers et apprentis, amis et clients attendaient leur tour, sans oublier la commère à laquelle le bijou était destiné, s'empressait autour de lui, le complimentant, le couvrant d'éloges, félicitant par la même occasion le griot qui se voyait comblé de cadeaux. Cadeaux qui sont quasi ses seules ressources dans la vie errante qu'il mène à la manière des troubadours de jadis. Rayonnant, échauffé par la danse et la louange, mon père offrait à chacun des noix de cola, cette menue monnaie de la civilité guinéenne. Il ne restait plus à présent qu'à rougir le bijou dans un peu d'eau additionnée de chlore et de sel marin. Je pouvais disparaître, la fête était finie. Mais souvent, comme je sortais de l'escalier, ma mère qui était dans la cour à piler le mil ou le riz m'appelait. « Où étais-tu ? » disait-elle, bien qu'elle le sût parfaitement. « Dans l'atelier. »« Oui, ton père travaillait l'or, l'or, mais toujours l'or. » Et elle donnait de furieux coups de pilon sur le mil ou le riz qui n'en pouvait aimer. « Ton père se ruine la santé, voilà ce que ton père fait. »« Il a dansé la douga, » disais-je. « La douga, ce n'est pas la douga qui l'empêchera de s'abîmer les yeux. Et toi, tu ferais mieux de jouer dans la cour plutôt que d'aller respirer la poussière et la fumée dans l'atelier. » Ma mère n'aimait pas que mon père travaille à l'or. Elle savait combien la soudure de l'or est nuisible. Un bijoutier épuise ses poumons à souffler au chalumeau et ses yeux ont fort à souffrir de la proximité du foyer. Peut-être ses yeux souffrent-ils davantage encore de la précision microscopique du travail. Et même n'en eût-il été rien, ma mère n'eût guère plus aimé ce genre de travail. Elle le suspectait, car on ne soude pas l'or sans l'aide d'autres métaux. Et ma mère pensait qu'il n'est pas strictement honnête de conserver l'or épargné par l'alliage, bien que ce fût chose admise, bien qu'elle acceptât, quand elle portait du coton à tisser, de ne recevoir en retour qu'une pièce de cotonnade d'un poids réduit de moitié.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 3. Souvent, j'allais passer quelques jours à Tendikan. Tendikan, petit village à l'ouest de Kourousa. Ma mère était née à Tendikan, et sa mère, ses frères continuaient d'y habiter. Je me rendais là avec un plaisir extrême, car on m'y aimait fort, on me choyait, et ma grand-mère particulièrement, pour qui ma venue était une fête. Moi, je la chérissais de tout cœur. C'était une grande femme aux cheveux toujours noirs, mince, très droite, robuste, jeune encore à dire vrai, et qui n'avait cessé de participer aux travaux de la ferme, bien que ses fils, qui suffisaient amplement à la tâche, tentassent de l'en dispenser. Mais elle ne voulait pas du repos qu'on lui offrait, et sans doute était-ce dans cette activité suivie que gisait le secret de sa verdeur. Elle avait perdu son mari très tôt, trop tôt, et moi, je ne l'avais pas connu. Il arrivait qu'elle me parlât de lui, mais jamais longtemps. Des larmes interrompait bientôt son récit, si bien que je ne sais rien de mon grand-père, rien qui le peigne un peu à mes yeux, car ni ma mère ni mes oncles ne me parlaient de lui. Chez nous, on ne parle guère des défunts qu'on a beaucoup aimés. On a le cœur trop lourd, sitôt qu'on évoque leurs souvenirs. Quand je me rendais à Tindicat, c'était le plus jeune de mes oncles qui venait me chercher. Il était le cadet de ma mère et à peine sorti de l'adolescence. Aussi me semblait-il très proche encore de moi. Il était naturellement gentil. Il n'était pas nécessaire que ma mère lui recommandât de veiller sur moi. Il le faisait spontanément. Il me prenait par la main et je marchais à ses côtés. Lui, tenant compte de ma jeunesse, rapetissait ses pas, si bien qu'au lieu de mettre 2 heures pour atteindre Tindicat, nous en mettions facilement 4. Mais je ne m'apercevais guère de la longueur du parcours, car toutes sortes de merveilles la coupaient. Je dis « merveilles » parce que Kouroussa est déjà une ville et qu'on n'y a pas le spectacle qu'on voit aux champs et qui, pour un enfant des villes, est toujours merveilleux. À mesure que nous avancions sur la route, nous délogions ici un lièvre, là un sanglier, et des oiseaux partaient dans un grand bruit d'ailes. Parfois aussi, nous rencontrions une troupe de singes. Et chaque fois, je sentais un petit pincement au cœur, comme plus surpris que le gibier même, que notre approche alertait brusquement. Voyant mon plaisir, mon oncle ramassait des cailloux, les jetait loin devant lui, ou battait les hautes herbes avec une branche morte pour mieux déloger le gibier. Je l'imitais, mais jamais très longtemps. Le soleil, dans l'après-midi, luit férocement sur la savane, et je revenais glisser ma main dans celle de mon oncle. De nouveau, nous marchions paisiblement. « Tu n'es pas trop fatigué ?» demandait mon oncle. « Non. Nous pouvons nous reposer un moment, si tu veux. » Il choisissait un arbre, un capoquier ou un néré, dont l'ombre lui paraissait suffisamment dense, et nous nous asseyons. Il me contait les dernières nouvelles de la ferme, les naissances, l'achat d'une bête, le défrichement d'un nouveau champ ou les méfaits des sangliers, mais c'était les naissances surtout qui éveillaient mon intérêt. « Il est né un veau, disait-il. De qui ? Demandai-je, car je connaissais chaque bête du troupeau. De la blanche. Celle qui a les cornes comme un croissant de lune ? Celle-là même ? Ah, et le veau, comment est-il ? Beau, beau, avec une étoile blanche sur le front. Une étoile ? Oui, une étoile. Et je rêvais un moment à cette étoile. Je regardais l'étoile, un veau avec une étoile. C'était pour faire un conducteur de troupeau. Mais, dis donc, il doit être beau, disais-je. Tu ne peux rien rêver de plus joli. Il a les oreilles si roses que tu les croirais transparentes. J'ai hâte de le voir. Nous irons le voir en arrivant. Sûrement. Mais tu m'accompagneras. Bien sûr, Froussard. Oui, j'avais peur des grandes bêtes cornues. Mes petits camarades de Tindicat s'en approchaient de toutes les manières, se suspendaient à leurs cornes, allaient jusqu'à leur sauter sur le dos. Moi, je me tenais à distance. Quand je partais en brousse avec le troupeau, je regardais les bêtes paître, mais je ne m'en approchais pas de trop près. Je les aimais bien, mais leurs cornes m'intimidaient. Les veaux, eux, n'avaient pas de cornes, mais ils avaient des mouvements brusques, inattendus. On ne pouvait pas trop se fier à eux. « Viens, disais-je à mon oncle, nous nous sommes assez reposés. » J'avais hâte d'arriver. Si le veau était dans l'enclos, je pourrais le caresser. Dans l'enclos, les veaux étaient toujours tranquilles. Je mettrais un peu de sel sur la peau de ma main et le veau viendrait lécher le sel. Je sentirais sa langue doucement râper ma main. « Pressons le pas, disais-je. » Mais mes jambes ne supportaient pas qu'on les pressât tant. Elles ralentissaient. Et nous continuons sur notre route sans hâte, nous flânions. Mon oncle me racontait comment le singe s'y était pris pour dindonner la panthère qui s'apprêtait à le dévorer, ou comment le rat palmiste avait fait languir l'hyène toute une nuit pour rien. C'était des histoires 100 fois entendues, mais auxquelles je prenais toujours plaisir. Mes rires levaient le gibier devant nous. Avant même d'atteindre Tindicat, j'apercevais ma grand-mère venue à notre rencontre. Je lâchais la main de mon oncle et je courais vers elle en criant. Elle me soulevait et me pressait contre sa poitrine et moi, je me pressais contre elle, l'entourant de mes bras comme éperdue de bonheur. « Comment vas-tu, mon petit époux ? » disait-elle. « Bien » criai-je, « bien !»« Mais est-ce bien vrai cela ?» Et elle me regardait, elle me palpait, elle regardait si j'avais les joues pleines, et elle me palpait pour voir si j'avais autre chose que la peau sur les os. Si l'examen la satisfaisait, elle me félicitait, mais quand ses mains ne rencontraient que maigreur, la croissance m'amaigrissait, elle gémissait. « Voyez-vous, disait-elle, on ne mange donc pas à la ville ?» Tu n'y retourneras pas avant de t'être convenablement remplumée, c'est compris ? Oui, grand-mère. Et ta mère et ton père, ils se portent tous bien chez toi ? Et elle attendait que je lui eusse donné des nouvelles de chacun avant de me reposer à terre. Est-ce que le trajet ne t'a pas trop fatigué ? Demandait-elle à mon oncle. Du tout, disait mon oncle. Nous avons marché comme des tortues et le voilà prêt à courir aussi vite qu'un lièvre. Dès lors, à demi rassurée, elle me prenait la main et nous partions vers le village. Nous faisions notre entrée dans le village, moi entre ma grand-mère et mon oncle, mes mains logées dans les leurs, et sitôt les premières cases atteintes, ma grand-mère criait « Bonne Jean, voici mon petit époux qui est arrivé !» Et les femmes sortaient de leurs cases et accouraient à nous en s'exclamant joyeusement. « Mais c'est un vrai petit homme » s'écriait-elle. « C'est vraiment un petit époux que tu as là !» Beaucoup me soulevaient de terre pour me presser contre leur poitrine. Elle aussi examinait ma mine et mes vêtements, qui étaient des vêtements de la ville, et elle déclarait tout splendide. Elle disait que ma grand-mère avait bien de la chance d'avoir un petit époux tel que moi. De partout elles accouraient, de partout elles venaient m'accueillir. Oui, comme si le chef de canton en personne eût fait son entrée dans Tindicat, et ma grand-mère rayonnait de joie. Ainsi, assaillie à chaque case, répondant à l'exubérance des commères, donnant des nouvelles de mes parents, il fallait largement 2 heures pour franchir les quelques 100 ou 200 mètres qui séparaient la case de ma grand-mère des premières cases que nous rencontrions. Et quand ces excellentes femmes nous quittaient, c'était pour surveiller la cuisson d'énormes platées de riz et de volaille qu'elles n'allaient pas tarder à nous apporter pour le festin du soir. Aussi, fussé-je même arrivé maigre comme un clou à Tindicat, j'étais assurée d'en repartir 10 jours plus tard, tout rebondi et luisant de santé. La concession de mon oncle était vaste. Si elle était moins peuplée et de loin que la nôtre, si elle n'avait pas la même importance, elle s'étendait généreusement comme il en va à la campagne, où la place ne fait pas défaut. Il y avait les enclos pour les vaches, pour les chèvres. Il y avait les greniers à riz, à mille, à manioc, à arachide, à gombo, qui sont comme autant de petites cases dressées sur des socles de pierre pour les préserver de l'humidité. À l'exception de ces enclos et de ces greniers, la concession de mon oncle différait peu de la nôtre. Simplement, la palissade qui la défendait était plus robuste. Au lieu de roseaux tressés, on s'était servi pour la bâtir de solides piquets de bois coupés dans la forêt proche. Quant aux cases, elles n'étaient pas autrement construites que les nôtres, mais elles étaient plus primitives. Mon oncle Lansana, en tant qu'aîné, avait hérité de la concession à la mort de mon grand-père. En fait, mon oncle avait un jumeau qui aurait pu le supplanter, mais Lansana avait vu le jour le premier. Et chez nous, c'est le premier-né des jumeaux qui est tenu pour l'aîné. Il arrive néanmoins que ce droit d'aînesse souffre certains gauchissements, parce qu'il y a toujours un des deux jumeaux qui, plus particulièrement, impose, et ne fût-il pas le premier-né, il se qualifie comme héritier. Peut-être, dans le cas de mes oncles, est-ce le second jumeau qui se fût imposé, car il ne manquait ni de prestige ni d'autorité. Mais il n'y pensait même pas. Il avait peu de goût pour la terre, et on le voyait rarement à Tindicant. Il était une fois ici, une fois là. En vérité, le hasard seul et ses lointaines visites faisaient connaître où il était. Il avait le goût de l'aventure dans le sang. Pour moi, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Il était revenu à Tindicant. Il y était de quelques jours et déjà ne songeait qu'à repartir. J'ai conservé le souvenir d'un homme extrêmement séduisant et qui parlait beaucoup, qui n'arrêtait pas de parler et qu'on ne se lassait pas d'écouter. Il racontait ses aventures qui étaient étranges, qui dépaysaient, qui m'ouvraient des horizons surprenants. Il me combla de cadeaux. S'était-il spécialement mis en frais pour l'écolier que j'étais ou n'obéissait-il qu'à sa nature? Je ne sais pas. Quand je le vis repartir vers de nouvelles aventures, je pleurais. Quel était son nom? Je ne me souviens plus. Peut-être ne l'ai-je jamais su. Je l'avais appelé Beau, durant les quelques jours qu'il était demeuré à Tindicant, et c'était le nom aussi que je donnais à mon oncle Lansana, car ainsi surnomme-t-on habituellement les jumeaux, et ce surnom efface le plus souvent leur véritable nom. Mon oncle Lansana avait encore deux autres frères, dont l'un était récemment marié. Le cadet, celui qui venait me chercher à Kouroussa, bien que fiancé, était pour lors un peu jeune pour prendre femme. Ainsi, deux familles, mais pas bien nombreuses encore, habitaient la concession, en plus de ma grand-mère et de mon oncle cadet. Généralement, quand j'arrivais dans l'après-midi, mon oncle Lansana était encore à ses travaux dans les champs, et c'était dans la case de ma grand-mère que j'entrais d'abord. La case même que durant mon séjour, je ne cesserai d'occuper.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Jolie pour vous, présentée par Hélène Vignon.
Cette case, à l'intérieur, ressemblait fort à celle que je partageais à Kouroussa avec ma mère. J'y voyais juste la même calebasse où ma mère gardait le lait et identiquement suspendue au toit par trois cordes pour qu'aucune bête n'y accède, identiquement couverte aussi pour empêcher la suie d'y tomber. Ce qui rendait la case singulière à mes yeux, c'était les épis de maïs qui, à hauteur du toit, pendaient en couronne innombrable et toujours plus réduite selon qu'elle se rapprochait du faîte. La fumée du foyer n'arrêtait pas d'enfumer les épis et les conservait ainsi hors d'atteinte des termites et des moustiques. Ces couronnes auraient pu servir en même temps de calendrier rustique, car à mesure que le temps de la récolte nouvelle approchait, elles devenaient moins nombreuses et finalement disparaissaient. Mais je ne faisais alors qu'entrer dans la case. Je ne faisais qu'y poser mes vêtements. Ma grand-mère jugeait qu'après avoir fait route de Kouroussa à Tindicant, la première chose à faire était de me laver. Elle me voulait nette, bien qu'elle ne se fît pas trop d'illusions sur la durée de cette netteté. Mais du moins, était-ce sous ce signe qu'elle voulait voir commencer mon séjour. Et elle me conduisait, incontinent, dans le lavoir, un petit enclos à proximité de sa case, entouré de roseaux et dallé de larges pierres. Elle allait retirer la marmite du foyer, verser l'eau dans une calebasse, et, après l'avoir attiédie à la température convenable, la porter dans le lavoir. Elle me savonnait avec du savon noir de la tête aux pieds. Et après, elle me frottait non sans énergie avec une éponge de filasse extraite d'arbres tendres. Je sortais du lavoir resplendissant, le sang avivé, la peau brillante, le cheveu bien noir, et courais me sécher devant le feu. mes petits compagnons de jeu étaient là, qui m'attendaient. « Alors, tu es revenu ?» disait-il. « Je suis revenu. Pour longtemps ?»« Pour un bout de temps. » Et suivant que j'étais maigre ou gras, car eux aussi donnaient à la mine la première importance. Mais j'étais maigre le plus souvent, j'entendais. « Dis donc, tu te portes bien, toi ?»« Oui, » disais-je modestement. « Ou, tu n'es pas gros ?»« Je grandis, » disais-je. « Quand tu grandis, tu ne peux pas être gros. »« Non, mais tout de même, tu n'es pas bien gros. » Et il y avait un temps de silence, parce que chacun réfléchissait à cette croissance qui fait davantage maigrir les enfants de la ville que les enfants de la campagne. Après quoi, l'un d'eux régulièrement s'écriait « Envoie-t-on des oiseaux dans les champs cette année ?» Mais il en allait ainsi toutes les années. Toujours il y avait quantité d'oiseaux qui dévoraient les champs et toujours, c'était nous, les gosses, qui avions pour principale occupation de leur faire la chasse. « J'ai ma fronde, » disais-je. Je l'avais emportée avec moi. Je n'avais garde de ne l'oublier, et ici, je ne la quittais pour ainsi dire pas, soit pour paître le bétail, soit pour surveiller les moissons du haut des miradors. Les miradors tiennent une place importante dans mes séjours à Tindicamp. On rencontrait partout de ces planchers montés sur des piquets fourchus et comme portés par le flot montant des moissons. Avec mes petits camarades, j'escaladais l'échelle qui y conduisait et nous chassions à la fronde dans les oiseaux, les singes parfois, qui venaient piller les champs. Tout au moins, était-ce là notre mission et nous l'accomplissions sans rechigner, bien plus par plaisir que par obligation. Mais il arrivait aussi que, pris par d'autres jeux, nous oublions pourquoi nous étions là. Et sinon pour moi, pour mes petits camarades tout au moins, cela ne se passait pas sans inconvénient. Les parents ne tardaient guère à s'apercevoir que le champ n'avait pas été surveillé. Et alors, selon la grandeur du dégât, c'était ou une gronderie bruyante ou le martinet qui rappelait à la vigilance les guetteurs distraits. Ainsi, dûment édifiés, et quand bien même nous nous faisions de ces confidences passionnantes que les oreilles des grandes personnes ne doivent pas entendre et qui sont le plus souvent le récit de rapines puériles, nous tenions néanmoins un œil sur les moissons. Au surplus, nos cris et nos chants suffisaient généralement à éloigner les oiseaux, même les mange-mille qui s'abattaient par bandes compactes. Mes petits compagnons étaient pleins de gentillesse. C'étaient d'excellents camarades, vraiment, hardis, plus hardis que moi, assurément, et même assez casse-cou, mais qui acceptaient de modérer leur fougue foncière par égard pour l'enfant de la ville que j'étais, rempli au surplus de considération pour ce citadin qui venait partager leur jeu campagnard, et éternellement en admiration devant mes habits d'écolier. Sitôt séchés devant le feu, je les revêtais, ces habits. Mes petits camarades me regardaient avec des yeux avides, passaient ma chemise kaki à manches courtes, enfilaient une culotte de même nuance et chaussaient des sandales. J'avais aussi un béret que je ne mettais guère, mais il suffisait. Tant de splendeur était faite pour éblouir ces petits campagnards qui n'avaient qu'un caleçon court pour tout vêtement. Moi, cependant, j'enviais leur caleçon qui leur donnait une liberté plus grande. Ces vêtements de ville qu'il fallait tenir propres étaient bien embarrassants. Ils se salissaient, ils se déchiraient. Quand nous grimpions sur les miradors, je devais prendre garde à ne point m'accrocher aux échelons. Quand nous étions sur le mirador, il fallait me tenir à bonne distance des épis fraîchement coupés, mis là pour servir de semences et conservés à l'abri des termites. Et quand nous allumions un feu pour cuire les lézards ou les mulots que nous avions tués au lance-pierre, je ne devais pas m'approcher trop, moins encore me hasarder à vider le produit de notre chasse. Le sang eût taché mes habits, les cendres les eussent noircis. Il me fallait regarder vider les lézards et mulots, garnir l'intérieur de sel avant de les poser sur la braise. Même pour les déguster, toutes sortes de précautions m'étaient nécessaires. Aussi me serais-je volontiers libérée de ces vêtements d'écolier qui n'étaient bons que pour la ville. Et à dire vrai, je m'en serais bientôt libérée si j'avais eu autre chose à me mettre. Mais je n'avais que ces habits avec moi. On ne me donnait pas d'autres vêtements. Du moins, ici, pouvais-je les salir ou les déchirer sans qu'on me grondât. Ma grand-mère les lavait, les raccommodait, sans grand commentaire. J'étais venue pour courir, pour jouer, pour grimper sur les miradors et pour me perdre dans les hautes herbes avec les troupeaux. Et naturellement, je ne pouvais le faire sans endommager ces précieux habits. À la nuit tombante, mon oncle Lansana rentrait des champs. Il m'accueillait à sa manière, qui était timide. Il parlait peu. À travailler dans les champs à longueur de journée, on devient facilement silencieux. On remue toutes sortes de pensées, on en fait le tour et interminablement on recommence, car les pensées ne se laissent jamais tout à fait pénétrer. Ce mutisme des choses, des raisons profondes des choses, conduit au silence. Mais il suffit que ces choses aient été évoquées et leur impénétrabilité reconnue, il en demeure un reflet dans les yeux. Le regard de mon oncle Lansana était singulièrement perçant lorsqu'il se posait. De fait, il se posait peu. Il demeurait tout fixé sur ce rêve intérieur, poursuivi sans fin dans les champs. Quand les repas nous réunissaient, souvent je tournais les yeux du côté de mon oncle et généralement au bout d'un moment, je réussissais à rencontrer son regard. Ce regard me souriait, car mon oncle était la bonté même. Et puis, il m'aimait, je crois bien, autant que ma grand-mère. Je répondais à son sourire discret et parfois, moi qui mangeais déjà très lentement, j'en oubliais de manger. « Tu ne manges pas ?» disait alors ma grand-mère. « Si, si, je mange, » disais-je. « Bon, » disait ma grand-mère, « il s'agit de tout manger !» Mais il était hors de question naturellement de vider tous les plats de viande et de riz qu'on avait accumulés pour ce festin de joyeuse arrivée. Et ce n'étaient pas mes petits copains qui n'y dansent pas, de toutes leurs dents d'ailleurs. On les avait invités et ils y allaient de tout cœur, avec un appétit de jeune loup, mais c'était trop, c'était décidément trop, on ne pouvait arriver au bout d'un tel repas. « Regarde, mon ventre comme il est rond !» entendais-je me dire. Oui, les ventres étaient ronds, et assis à proximité du feu, une laborieuse digestion nous eût conduit au sommeil, si notre sang eût été moins vif. Mais nous, les petits, nous avions une palabre à tenir, une palabre comme les grands. Nous ne nous étions plus vus depuis des semaines et parfois depuis des mois, et nous avions tant de choses à nous conter, tant d'histoires nouvelles à raconter, et c'était l'heure. Des histoires, bien sûr, nous en connaissions tous, nous en connaissions en quantité, mais dans le tas, il s'en trouvait toujours qu'on allait entendre pour la première fois. Et c'était celle-là qu'autour du feu, on attendait impatiemment. C'était les conteurs de ces histoires-là qu'on attendait d'applaudir. Ainsi achevais-je cette première journée de campagne, sauf à courir à quelques tam-tams, mais ce n'était pas fait chaque soir. Le tam-tam, à t'indiquant, ne retentissait pas chaque soir. Si la première partie de notre lecture se passait en ville, chez les parents de Camara, et autour des habitations et traditions particulières, de la position et du métier de son père, nous venons de voir la vie d'un enfant à la campagne. Faune, flore, troupeau des champs, liberté dont les enfants jouissent dans cette nature généreuse, la convivialité entre les différentes familles de la tribu, et bien sûr, le plaisir que l'enfant noir, libéré des contraintes dues au statut de son père, peut avoir à partager pour un temps cette liberté dans la nature. Mais les saisons changent et le séjour de l'enfant va évoluer aussi. Donc, à bientôt, chers auditeurs, pour poursuivre notre séjour africain un peu différemment. N'oubliez pas d'écouter la suite, soit en direct sur Radio Alliance Plus 103.2 et DAB+, soit sur les podcasts de la radio www.radioallianceplus.fr. N'hésitez pas d'écouter aussi la brève de Je lis pour vous. À bientôt !